tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi dans l'actualité des idées. Aujourd'hui, sexe et connaissance, a-t-on raison de les opposer ? Invité le neurologue Lionel Nakache pour « Nous sommes tous des femmes savantes » qui paraît chez Odile Jacob. Mais d'abord, le regard de la blogueuse et bédéiste Emma, aujourd'hui sur le climat. L'ex-ingénieure informaticienne qui a percé le milieu de la bulle en popularisant le concept de charge mentale avec sa bande dessinée « Fallait demander ». Sur son blog, l'auteur qui se dit militante, féministe et anticapitaliste aborde des thématiques d'actualité, de la réforme Blanquer aux violences policières jusqu'au droit à l'avortement, qu'elle traduit parfois en bande dessinée. Emma est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Mais d'abord, et comme chaque jour jusqu'à vendredi prochain, on ouvre cette grande table culture avec le quotidien journal de Cannes d'Antoine Guillot. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia.
Hommage hier soir à l'américain John Carpenter, à la quinzaine des réalisateurs en musique.
C'est un cinéaste en retraite forcé depuis près de 10 ans qui a créé l'événement hier à Cannes. Olivia, son dernier film The Ward, l'hôpital de la terreur, n'est sorti en France qu'en DVD. Et pourtant, des deux côtés de l'Atlantique, son influence et son aura sont immenses. En témoigne la frénésie qui s'est emparée hier du Palais Croisette, la salle de la quinzaine des réalisateurs. Une salle comble pour assister à 2 heures de masterclass du maître de l'horreur. Masterclass animée par 2 jeunes cinéastes tout fébriles d'interroger leur idole, qu'a-t-elle qu'il est verré, et Yann Gonzalez. Il faut dire que l'inventeur avec Halloween il y a 40 ans du slasher movie, ce sous-genre horrifique avec tueur psychopathe adepte des armes blanches, vous en reconnaissez certainement la musique, le créateur de chefs-d'œuvre qui excèdent l'assignation à leur genre comme The Thing, Prince des Ténèbres, L'Antre de la Folie ou Vampire a marqué à jamais plusieurs générations de cinéastes. On en trouve les traces chez David Gordon Green dans It Follows, toute la série Netflix Stranger Things baigne dans son univers, Quentin Tarantino lui a rendu un hommage très direct dans Les 8 salopards avec cette scène comme dans The Thing où Kurt Russell était coincé dans une tempête de neige d'où sortaient violence et paranoïa, une influence qu'on retrouve aussi dans ces films d'auteurs qui réinventent les genres, comme hier en compétition à Cannes dans le passionnant Bacurao des Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Giuliano Dornelles, ou chez les Français Nicolas Saada ou Bertrand Bonello. Bertrand Bonello qui lui a remis hier soir le Carros d'Or, ce trophée qui récompense l'ensemble d'une carrière, trophée décerné par la Société des réalisateurs français, la SRF, et remis les années précédentes à des Martin Scorsese, Werner Herzog ou encore Agnès Varda.
Et comment expliquer, Antoine, cet engouement ? Pardon, les micros étaient fermés.
Eh bien, d'abord sans doute par la pertinence politique de ces films, critique féroce du capitalisme et de l'autoritarisme, même si Carpenter, en bon héritier d'une tradition qui remonte à John Ford, refuse de commenter cette dimension. Si on veut envoyer des messages, on utilise la poste. Et pourtant, il suffit de revoir The Live, Invasion Los Angeles, pour trouver 25 ans après, dans cette dénonciation du réganisme et des yuppies des années 80, une parfaite description du trumpisme actuel et de l'arrogance des néolibéraux. Très novatrice et contemporaine aussi sa conception du mal, telle qu'elle se donne à voir dans ses films, un mal diffus, sans cause ni explication, qui apparaît comme il disparaît, sur lequel personne n'a prise et qui incarne parfaitement le sentiment de dépossession dont tout un chacun fait l'expérience quotidienne. Mais c'est sans doute par sa conception même de la mise en scène que Carpenter est à jamais inscrit dans la grande histoire du cinéma, une conception héritée d'Howard Hawks, lui qui avait signé avec Asso le remake urbain de Rio Bravo, une conception qu'il transmet à son tour à la jeune génération, une mise en scène directe, sans fioritures, minimaliste, comme les musiques qu'il compose, et qu'il fait désormais retentir sur toutes les scènes de la planète, maintenant qu'il s'est reconverti en musicien itinérant, un idéal de l'invisibilité du réalisateur capable pourtant de nous angoisser rien qu'en filmant une pièce vide. John Carpenter, dernier des classiques et cinéaste empêché, on rêve qu'un Saïd Ben Saïd, le producteur qui a sorti de leur retraite Paul Verhoeven et Brian De Palma par exemple, donne sa chance à Big John de nous terroriser une fois encore.
Merci beaucoup Antoine Guillot, et ce soir à Cannes, Que se passera-t-il ? Vous avez déjà le programme de la journée ?
Oui, ce soir, on va nous parler des migrants avec Atlantique, film très attendu de Mati Diop, et puis de l'ubérisation du travail avec le nouveau, encore un, Ken Loach, Sorry We Missed You.
En sélection officielle, le journal d'Antoine Guillot à retrouver sur France Culture ou sur franceculture.fr. Merci beaucoup Antoine, rendez-vous demain pour un nouveau journal de Cannes.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Elle est toute sage à côté de moi. Elle publie surtout un autre regard sur le climat chez Massot Éditions en trois parties. Une petite machine, vous reprendrez bien, un peu de cynisme et du pain sur la planche. Ça c'est sûr, nous en avons. Bonjour Emma.
Bonjour.
Le problème climat, c'est à lui que vous vous attelez aujourd'hui. Vous tentez pas totalement de le résoudre, ce serait bien compliqué pour une personne, quelle qu'elle soit. Mais c'est une équation qui ne vous paraît pas aussi compliquée qu'elle n'en a l'air.
Je pense que voilà, surtout ce qui est compliqué, c'est d'identifier l'obstacle, et après ce qui reste compliqué une fois qu'on l'a identifié, puisque ce que j'essaie d'expliquer dans la bande dessinée, c'est que l'obstacle, il est pas technique, il est politique en fait. Une fois qu'on l'a identifié, la difficulté, c'est de savoir par quel bout prendre la lutte contre ce système capitaliste qui est justement, comme c'était dit précédemment sur les films de Carpenter, c'est très diffus, c'est difficile de savoir par où commencer.
Alors comment vous avez fait, vous ? Par où avez-vous commencé ? Vous vous êtes d'abord procuré une tonne de documentation, des livres scientifiques, d'autres plus politiques, pour tenter de percer le problème et ce mystère ?
Alors oui, des livres, beaucoup d'articles, et c'est d'ailleurs ce que je conseillerais aux personnes qui savent pas par quel bout prendre la lutte, c'est commencer à lire, échanger des livres, discuter politique avec leur entourage. Alors après, des livres... Je dirais pas des livres scientifiques ou politiques, parce que pour moi la science est pas complètement à côté de la politique, c'est-à-dire que la science prend des directions en fonction aussi des opinions politiques de ceux qui font des recherches. Donc moi j'ai lu des livres scientifiques effectivement, mais qui étaient quand même des livres qui avaient une vision sur le capitalisme et sur l'organisation néolibérale de la société.
Avec vous, l'anthropocène devient le capitalocène, cette ère nouvelle dans laquelle nous sommes. Les entreprises et les États sont responsables de la crise climatique actuelle. Depuis qu'elle est connue, ils ont fermé les yeux, comme le dévoile aussi l'Américain Nathaniel Rich, invité hier des matins de France Culture dans son livre Enquête Perdre la Terre. Aujourd'hui, il rejette la responsabilité sur les individus citoyens, là où la solution résiderait plutôt dans l'action collective. Je résume dans les grandes lignes la démarche, la vôtre de cette bande dessinée, Emma. Vous avez donc travaillé en vous documentant, et c'est en vous documentant qu'une nouvelle sensibilité en vous est née sur ce sujet.
Oui, absolument, parce que moi, en fait, je partais de mon sentiment d'éco-citoyenne, en fait, c'est-à-dire que j'essayais de faire ces efforts individuels, de trier, de faire attention à ma consommation d'eau, d'acheter bio, etc. Et puis, je sentais bien que je m'épuisais à faire ça et que finalement, le réchauffement continuait à s'aggraver et qu'on allait à grande vitesse vers quelque chose dont on avait l'air de pas être maître. Donc, j'ai commencé à fureter un peu, à lire ces livres, et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que cette notion d'anthropocène, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le réchauffement est provoqué par l'homme en général, était fausse, et qu'en fait le réchauffement, il a été provoqué par les décisions d'une minorité de personnes, c'est-à-dire les gouvernements et les gros pollueurs, donc ceux qui ont les manettes du pouvoir, et que globalement l'humanité n'a fait depuis le début qu'essayer de survivre dans un contexte qui a été décidé par d'autres.
Ces petits livres, d'ailleurs, qui donnent des solutions au quotidien, des gestes citoyens, se vendent très bien. Ça marche, ça veut dire que les gens sont quand même aussi en demande d'action individuelle, de savoir comment faire à son échelle pour tenter de réagir et à défaut de pouvoir totalement changer les choses. On ne résoudra rien, dites-vous, à coup d'injonctions individuelles et de petits gestes, comme le réalisateur et militant du Colibri, Cyril Dion, qui est lui l'auteur d'un petit manuel de résistance contemporaine. Vous pensez que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'abord changer de récit, changer de mythologie pour changer le monde ?
Moi, je pense qu'effectivement, la première étape, alors c'est vrai qu'on a un sentiment d'urgence, donc on a envie de faire quelque chose très vite, un peu frénétiquement. Donc on trie, on fait attention, ça prend beaucoup d'énergie et on perd la vision sur l'image globale, l'image générale. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de se poser, prendre quelques mois, on a encore quelques mois, pour lire, pour discuter avec des gens, pour se renseigner et agir après intelligemment et collectivement. Et ça, du coup, pour moi, ce qu'il nous faut, c'est un soulèvement, un vrai soulèvement populaire de masse qui retire le pouvoir des mains de ceux qui nous ont mis dans cette situation. Et ça se fait pas en triant ces emballages, malheureusement.
Le grand récit, il commencerait comment pour vous aujourd'hui ?
Alors moi, je commencerai par donc ce que je disais, déjà commencer à lire, discuter politique avec son entourage, échanger des lectures, se rencontrer en vrai, pas que sur Internet. Et pour moi, le mouvement de masse aujourd'hui populaire qui a la meilleure chance de provoquer ce soulèvement, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Donc j'encouragerai les personnes à aller sur les ronds-points, à aller aux manifestations du samedi, même si parfois c'est un peu violent, parce qu'il y a beaucoup de répression, pour discuter avec les Gilets jaunes, pour créer des liens, pour commencer à construire cette force collective qui sera capable de stopper le train lancé en grande vitesse dans le mur.
Sur la question climatique aussi, vous avez entendu dans les ronds-points, dans les défilés du samedi à Paris ou ailleurs, des mots qui font écho à ce que vous ressentez aujourd'hui sur cette question-là ?
Alors absolument, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont jamais discuté avec des militants en gilet jaune ont tendance à dire que ce ne sont pas des écolos, puisque ce qu'ils demandent c'est un droit à la consommation. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des personnes en France et partout dans le monde qui surconsomment, mais il y a des personnes qui sont déjà en fait dans le sacrifice permanent. Et à qui dire que faire des petits gestes, en fait, c'est complètement hypocrite, puisque c'est des personnes qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Donc les gilets jaunes, c'est des personnes qui parfois sautent un repas pour pouvoir nourrir leurs enfants. On ne peut pas leur appliquer cette question des petits gestes et les accuser de surconsommation. Donc en fait, il faut discuter avec eux pour comprendre là où ils en sont dans leur cheminement politique. C'est des gens qui ont une conscience écologiste, mais en fait qui, par leur action anticapitaliste, par le fait que le côté massif du mouvement menace l'organisation actuelle, sont intrinsèquement écologistes, puisqu'ils menacent cette organisation, cette logique marchande, cette logique de profit et de création de grandes inégalités sociales.
Des années que Monsieur Papillon trie ses emballages en plastique. Mais ce matin, son voisin Aquabon l'interrompt. C'est bien beau de trier bouteilles et flacons, mais après, où ça va ? Dans les centres de tri et de recyclage, pardi. Tout le monde le sait, répond Papillon. Pour être séparé, lavé, broyé, transformé, chauffé, soufflé, pour créer de nouveaux emballages. Vous voulez des preuves ? Suivez-moi.
Cessez de produire de l'inutile et du nuisible, écrivez-vous dans Un autre regard sur le climat qui paraît chez Masso Éditions Emma. Faire le tri, non pas des déchets, mais de nos besoins. Mais comment faire un tel inventaire et qui doit, à vos yeux, en porter la charge ?
Alors pour moi, ça doit se faire démocratiquement, c'est-à-dire que ça doit se discuter de façon horizontale, en incluant toutes les personnes dans la discussion. Donc pour moi, ça c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que la première étape, c'est retirer les manettes des mains des capitalistes et des États qui collaborent avec eux, et ensuite tout mettre à plat et définir les besoins de la société, et tout le monde doit avoir sa parole, parce que c'est sûr que en tant que femme, je vais avoir moi des besoins que des hommes peuvent ne pas percevoir. Une personne en situation de handicap peut avoir des besoins que des personnes valides peuvent ne pas percevoir. Donc l'idée, c'est de définir la capacité de production qu'on a et ce qu'on fait entrer dans cette capacité de production. Pour moi, les choses évidentes qu'on peut supprimer, c'est tout ce qui est luxe, tout ce qui est armement, tout ce qui est automobile individuel, et remplacer ça par, bien sûr, du transport en commun gratuit et beaucoup plus développé que ce qu'on a actuellement. Mais voilà, c'est ma vision de là où je parle, et c'est pour ça qu'il faut faire intervenir d'autres visions pour avoir un compte-rendu, un résultat démocratique discuté par toutes et tous de ce dont on peut se passer et ce qu'on doit conserver.
Si vous retirez les voitures individuelles à tout le monde aujourd'hui, vous risquez d'avoir du monde dans la rue. Et ce n'est qu'un exemple, puisque vous parliez des gilets jaunes.
Absolument.
C'est quand même aussi là que ça a commencé.
Tout à fait, c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est pour moi ce que fait cette injonction aux petits gestes. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de se priver de choses sans créer le contexte qui leur permet de s'en priver. Et du coup, si on crée ce contexte, il n'y a plus de privation, puisque on crée le cadre qui permet de se passer. Le besoin disparaît, en fait. Donc, on supprime pas la voiture d'abord, on crée déjà des transports en commun, on remet le rail qui est malheureusement en train de disparaître de partout, on rend les transports en commun gratuits, on diminue le temps de travail, on crée des boulots qui sont plus proches des lieux d'habitation, et puis à ce moment-là, supprimer les voitures, ça peut devenir une évidence.
Beaucoup des solutions que vous mettez en avant, des énergies renouvelables aux marches pour le climat, sont aujourd'hui discutées. En tout cas, elles ne font pas consensus sur leur efficacité. Vous n'avez pas parfois le sentiment de trop réduire, trop simplifier par souci de vulgariser?
Alors, trop, je dirais pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Je réduis, je simplifie, c'est sûr. Pour moi, je fais partie d'une chaîne de l'information, c'est-à-dire que il y a des travaux très techniques, très poussés, qui existent, mais malheureusement, qui sont pas accessibles au plus grand monde. Moi, mon travail, c'est de donner une idée générale de ces travaux. J'essaie de pas pervertir le sens. Par contre, je peux perdre de la finesse, de la nuance. Et pour moi, l'idée, c'est de donner envie aux personnes qui me lisent de lire tous les liens que je mets, parce que je mets toutes les sources, tous les liens, d'aller plus loin, en fait, dans la lecture, pour après avoir retrouvé cette finesse, ces nuances et ces détails plus avancés.
Où est-ce que vous vous situez dans cette chaîne de l'information?
Moi, je me situe...
Amont ou en aval?
Je hiérarchise pas, pour moi, c'est-à-dire que c'est horizontal. C'est horizontal, mais ce sont des cercles, en fait, qui qui se recouvrent. Et moi, je suis vraiment dans le cercle le plus large, c'est-à-dire que je vais essayer de lire ces thèses, ces choses scientifiques, parce que j'ai le temps de le faire, hein, vu que j'ai quitté mon boulot d'ingénieur. Et du coup, j'essaye de retranscrire ça, et pour moi, les lecteurs que je vis, c'est les lecteurs qui me ressemblent, qui ressemblent à la personne que j'étais avant de lire toutes ces choses. Et j'essaye d'écrire ce que j'aurais moi aimé lire il y a 7 ou 8 ans avant de me lancer dans le militantisme.
Un autre regard, c'est le titre générique de vos bandes dessinées qui aborde des sujets aussi variés. On l'évoquait avec les violences policières et le clitoris, la réforme Blanquer et le réchauffement climatique, le congé paternité et autres encore. Comment décale-t-on le regard aujourd'hui? Comment produit-on un autre regard dans ce flux d'images et d'informations?
Alors c'est très difficile. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une information qui est très dépolitisée sur les choses, c'est-à-dire qu'on va avoir un point de vue individualiste, beaucoup basé sur le développement personnel, sur les rapports interpersonnels de un à un, et on va pas trop parler des forces qui traversent la société, des rapports de domination, des hommes sur les femmes, des blancs sur les non-blancs, des riches sur les pauvres, etc. Et donc moi, cet autre regard que j'essaye de donner, c'est de rappeler ça, que on n'est pas des individus qui poussent tout seuls comme ça et dont les idées se génère par magie. On est des individus qui évoluent dans une société qui nous influence, et c'est la raison pour laquelle, quand on appartient à un groupe donné, notre vécu et notre façon de penser et notre façon d'agir, elle va être influencée par ce groupe. Et du coup, mon autre regard, il consiste à montrer que plus que d'agir sur soi, c'est-à-dire se changer soi en changeant le monde, ce qui pour moi est complètement une illusion, on change le monde pour changer les personnes qui vivent dedans.
Du blog à la bande dessinée, qu'est-ce que vous mettez en partage en faisant ça? Ce sont vos réflexions ou c'est d'abord votre indignation, Emma?
C'est les deux. Mes réflexions découlent souvent d'une indignation, c'est-à-dire que je trouve que quelque chose est pas normal. Alors parfois parce que ça me concerne directement, parfois parce que je connais des gens ou j'entends parler de personnes qui vivent des injustices. Et du coup, je vais me renseigner, je vais essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et pour moi, il y a une espèce de besoin viscéral de proposer cette connaissance à tout le monde, en fait, et de la publier, du coup, en ligne sur mon blog et sur mes réseaux, parce que ce cheminement que j'ai fait, moi, il a tellement changé ma façon de voir les choses, il m'a libérée en quelque sorte, même si c'est aussi difficile de comprendre tout ça, hein, psychologiquement, j'estime que ça va être utile à d'autres, et surtout que il faut qu'on soit très nombreux à porter ce regard pour arriver à changer quelque chose.
Mais vous n'avez pas l'impression, parfois, d'essayer de coller aux affects des autres, parce que votre travail marche aussi en interaction avec le retour que vous avez de votre communauté d'internautes sur votre blog ou de votre communauté de lecteurs à travers vos bandes dessinées, même si elle s'élargit d'une thématique à l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de travailler vraiment sur des sujets dont vous savez qu'ils pourront faire écho auprès de ces lecteurs internautes?
Absolument. Alors pour moi, il n'y a pas de mobilisation politique sans émotion. C'est-à-dire que il y a la connaissance, il y a l'émotion. Et si on n'a que la connaissance, on n'agit pas. En fait, c'est-à-dire on peut complètement avoir connaissance des violences faites aux femmes et ne pas se bouger parce qu'on n'est pas concerné, parce qu'on n'a pas d'empathie pour les personnes qui subissent ça. Donc pour moi, le militant ou la militante ne doit pas être dénué d'émotion, il doit utiliser cette émotion comme moteur pour se bouger. Et après, moi, sur le rapport que j'ai à ma communauté, je fais pas de clientélisme, c'est-à-dire que je ne prétends pas vendre de l'amour ou de l'amitié à ma communauté. J'échange des idées, j'essaye de que ça soit fait avec le plus de bienveillance possible, mais je joue pas sur la fibre affective.
La dessinatrice Pénélope Bagieu, l'une de vos consoeurs, auteure de Les culottés, des parcours de femmes fortes, appelle elle aussi à sortir du climat tempéré dans lequel les femmes sont trop souvent assignées.
On nous apprend, les femmes, à être... On valorise plutôt le fait d'être douce, d'être tempérée. On dit « t'énerve pas, crie pas trop fort, ça sert à rien de s'énerver, on n'arrive à rien en se mettant en colère ». Je pense que c'est complètement faux et qu'on arrive à plein de choses en se mettant en colère. Une des femmes dont je parle dans Les culottés, qui s'appelle Lemak Bowie, dit qu'on a, les femmes en ont assez d'être poliment fâchées. Elle a fini prix Nobel de la paix, donc ça lui a plutôt bien servi d'être énervée. En fait, on peut faire des choses, vraiment bouger des montagnes en utilisant sa colère et son indignation, du moment qu'on la contient pas. Et pour ça, il faut briser un vrai interdit d'éducation, je pense, pour les femmes et les jeunes femmes, c'est de se dire « moi, je suis hyper énervée, c'est vrai ». Donc on a inventé le mot « hystérique » pour parler des femmes qui s'énervent. Eh ben ok, si vous voulez, disons que c'est hystérique, je m'en fous. Mais il faut se dire « ma colère, elle a tout à fait la place pour s'exprimer, en fait ».
Alors là, aujourd'hui, vous avez une voix toute douce, vous êtes toute souriante. Est-ce qu'il y a des moments, des sujets qui, aujourd'hui, vous mettent vraiment en colère ?
Oui, je suis une féministe en colère, mais je l'exprime pas trop sur les autres. C'est pas dans mon caractère, mais je suis complètement solidaire avec celles qui le font. Et je suis complètement d'accord avec du coup ma consœur Pénélope. C'est les injonctions à la pédagogie et à la douceur qui sont faites aux militants en général et plus particulièrement aux femmes sont une façon de paralyser nos luttes. En fait, c'est-à-dire qu'on définit un chemin très étroit du comportement qui nous est autorisé. En échange de ça, on nous prêterait une oreille. Déjà, c'est faux, je pense, parce que parfois, on a besoin d'être un peu secoué pour changer d'avis. Ça se fait pas dans l'immédiat, ça se fait après coup ou avec des lectures aussi. Et puis, quelque part, quand on n'est pas dans la lutte, je pense qu'on n'a pas forcément d'avis à donner sur la façon dont les gens luttent. Donc pour moi, si on n'est pas satisfait de la façon dont les militants, les militantes s'expriment, eh ben on est tout à fait légitime à rejoindre la lutte et à la mener à sa propre façon.
Vous avez aujourd'hui une bande dessinée qui tourne autour du projet de réforme de Jean-Michel Blanquer sur l'école de la confiance. Vous avez décrypté, vu ce projet de réforme et en quoi il vous dérange aujourd'hui?
Alors, moi, ce qui me dérange, c'est la première chose, c'est que je vois très bien ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que on a un gouvernement néolibéral, on sait qu'il va vers la privatisation des services publics, que ce soit les hôpitaux, les écoles. Donc, les instituteurs, de la même façon que les soignants savaient ce qui allait arriver avec l'hôpital, savent ce qui va se passer avec l'école. Le problème de ce projet de loi, c'est qu'il dit pas ce qu'il va faire, il est flou exprès. Et de cette façon, c'est vrai, les parents d'élèves ne voient pas le problème. C'est difficile de les mobiliser parce que, en lisant le texte, c'est pas écrit, l'école va devenir payante. En fait, c'est écrit, juste on place les pions, on commence à avancer ces pions de façon à pouvoir créer cette école à plusieurs vitesses, une payante pour les personnes qui auront les moyens et puis une au rabais pour les personnes qui n'auront pas le choix.
Mais si c'est pas écrit que l'école va devenir payante, pourquoi l'école deviendrait payante? Pourquoi ce soupçon permanent?
Parce qu'on est, c'est ce vers quoi avance notre gouvernement en fait, c'est-à-dire qu'il privatise de plus en plus. On l'a vu avec les aéroports de Paris, on l'a vu avec les autoroutes. Il privatise de plus en plus parce qu'il collabore avec les capitalistes. Et ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai eu des interviews avec des journalistes qui me disaient mais le ministre, en fait, Blanquer, a promis qu'il ne ferait pas ça. Il a même écrit une lettre pour le dire. Et on parle quand même du gouvernement qui a dit qu'il y avait eu de violentes attaques contre l'hôpital de la Salpêtrière, alors que c'était complètement faux. C'est-à-dire que c'est quand même un gouvernement de gens qui mentent. Et maintenant, tout le monde le sait. Et ça a été montré même dans les médias les plus traditionnels. Donc pour moi, il faut pas de la promesse. Il faut des choses écrites, inscrites dans la loi. Tant que ça sera des paroles ou de la promesse, il faut surtout pas s'appuyer sur ça.
Vous n'accordez jamais le bénéfice du doute. écoute aujourd'hui, à ceux qui nous gouvernent et qui ont été aussi élus pour...
De toute façon, je suis très critique par rapport au système d'élection. C'est-à-dire que pour moi, le vote, c'est complètement l'inverse de la démocratie. C'est-à-dire que on n'exprime pas un choix en votant. On abandonne son pouvoir à une personne qui va prendre des décisions à notre place, qui va parler à notre place. Et souvent, ces personnes ne respectent même pas les promesses, ce qu'elles ont écrit dans le programme sur lequel on s'est appuyé pour voter. Donc, pour moi, non, le fait d'avoir élu, c'est pas vraiment un choix politique, c'est pas de la démocratie, c'est plutôt un abandon de pouvoir. Et moi, je pense que la démocratie, elle doit s'effectuer de façon directe entre nous, pas dans l'Assemblée nationale.
Enfin, l'élection, c'est pour ceux qui nous représentent, les députés, et pour le président de la République, le gouvernement, lui, étant nommé. Vous vous êtes aussi fait connaître en popularisant ce concept de charge mentale avec le texte « Fallait demander », d'abord posté, puis inséré dans le volume 2 de « Un autre regard », votre bande dessinée. C'est en gros l'idée du « Fallait demander, je t'aurais aidé » de l'homme à sa femme dans le couple. Faire l'écho du vécu des femmes. Vous continuez d'ailleurs depuis la publication de ce concept, sa popularisation, raconter les points aveugles, les zones d'ombre, c'est le nouveau combat féministe pour vous aujourd'hui, une révolution du quotidien?
Je sais pas si c'est le nouveau combat féministe, mais en tout cas c'est un des combats, oui, qui arrive sur le devant de la scène. Après c'est toujours le problème, puisqu'on est dans une société, c'est la même chose que pour l'écologie, on est dans une société de l'individu, du développement personnel, et ce concept de la charge mentale, il a beaucoup été repris et perçu comme finalement un problème de femme, un problème féminin et pas féministe, qui peut se régler en achetant des livres de trucs et astuces ou en prenant des cours de coaching pour alléger sa charge mentale. On a vu beaucoup de conseils donnés aux femmes de méditer, chantonner en faisant le ménage, respirer, faire des to-do list pour se libérer de cette charge mentale. Ça a été repris comme aussi étant une maladie psychologique des femmes. Donc il faut faire très attention à remettre ces sujets dans un contexte politique et un contexte d'inégale répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Il faut dire le mot patriarcat, il faut dire le mot domination masculine, même si ça heurte des sensibilités, parce que, encore une fois, c'est pas en se changeant soi qu'on change la société, et c'est l'inverse. Donc il faut demander des mesures comme l'allongement du congé paternité, comme remettre les ABCD de l'égalité à l'école, comme travailler sur la littérature jeunesse, sur les dessins animés, pour avoir d'autres représentations genrées que ce qu'on a aujourd'hui, et ça changera les individus.
Un mot de la génération des millénials à qui vous parlez, par l'auteur de White, Bret Easton Ellis.
La génération Woos, c'est-à-dire pleurnichard, c'était une blague que je faisais sur Twitter. Je me suis rendu compte que mon compagnon Todd, qui est beaucoup plus jeune que moi, nous sommes toujours ensemble d'ailleurs après 9 ans, je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'une génération à laquelle je n'arrive pas à me faire, car elle me semble très... pleurnichard. Todd n'avait pas été préparé à affronter les dures réalités de la vie, à savoir qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, que le travail est dur et harassant, que tu vas mourir, être rejeté un jour. Et chaque fois que cela se produisait, un revers, il tombait dans une spirale de honte ou de colère en répliquant « Ah, vous êtes des cons, vous ne comprenez pas mon art, vous êtes des putains de haineux, des trolls. » Je comprends aussi pourquoi les millennials se conduisent ainsi. Ils ont été élevés par un écran d'ordinateur. C'est comme leur meilleur ami. C'est universel. C'est vraiment comme ça qu'ils ont été élevés. L'écran est leur parent, en quelque sorte. Mais peut-être que tout va s'arranger. Peut-être qu'ils vont survivre à ça. Qu'ils vont commencer à apprendre en vieillissant. Peut-être.
Une génération pleurnicharde qui va peut-être apprendre et se bonifier en vieillissant. Emma?
Ah, ça me fait un peu penser à ce qu'on me dit quand moi je dénonce les violences faites aux femmes. On me dit que je suis une féministe pleurnicharde ou qui se victimise. Et ça rejoint encore, je trouve, cette culture individualiste de développement personnel où, en fait, le bonheur, la clé du bonheur serait dans notre cerveau. C'est-à-dire que on voit les choses, trop le négatif des choses, et en voyant les choses autrement, en voyant le côté positif, on devient heureux. Et ça, c'est vraiment une façon de penser qui détruit, en fait, l'idée même de lutte sociale et de lutte collective. Puisque on est juste, voilà, on va tout seul chez son psychologue, on lit tout seul son livre de développement personnel en espérant que ça va nous rendre heureux. Ben non, nous rendre heureux, c'est baisser le temps de travail, savoir du temps libre, savoir des logements confortables, savoir l'assurance de ne jamais se retrouver à la rue, savoir de l'espoir pour nos enfants. Donc voilà, c'est pas penser autrement.
Merci beaucoup Emma. Un autre regard sur le climat. Votre nouvelle bande dessinée vient de paraître chez Massot Éditions.